accueil de loisirs Crèze-Idomène, on a vu ça en commission et je pensais que ça allait faire l'objet d'un bordereau. Moi, j'ai voté contre, c'est parce que ça, les tarifs de l'accueil, en fait, vous avez voté qu'il y aurait une augmentation de 0, c'est peut-être infime, mais de 0,51. Et je trouvais, dommage de ne pas avoir suivi ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire que quand on avait voté les tarifs de de l'accueil périscolaire, on avait laissé les tarifs à l'identique. Donc ça aurait été bien que pour au moins les tarifs de l'accueil de loisirs, qui sont dans la continuité de l'accueil périscolaire, qu'on conserve les mêmes tarifs en 2020, les mêmes tarifs en 2021 que ceux de 2020. Concernant les tarifs de la restauration municipale, c'est vrai qu'il y a aussi il y a aussi la participation de 90 centimes faite par la commune auprès des familles, ce que je trouve très bien. J'ai fait la remarque aussi, d'autres l'ont fait comme moi. C'est vrai que le tarif de 0,90 est instauré depuis pas mal d'années. Je ne sais pas, peut-être que M. Oudois connaît le nombre d'années maintenant, mais bon, ça fait pas mal d'années. Et on trouvait que de ne pas augmenter ces 90 centimes, c'était dommage aussi, parce qu'on augmente les tarifs de la restauration et on n'augmente pas notre participation. Ce qui fait que on veut montrer une politique volontariste vis-à-vis des familles, des enfants. Et finalement là, en augmentant nos tarifs et en laissant la participation à l'identique, on ne montre pas vraiment une volonté à participer à ce que les familles puissent continuer à bénéficier de tarifs intéressants, en tout cas au niveau de la cantine. Donc voilà, je trouve dommage que ce n'ait pas été soumis à un vote au conseil municipal.
Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des remarques, non, Loïc, non, Monsieur Guimard. Sur la 99, le micro.
Bonjour. Sur la 99, la vente du bateau, est-ce qu'il y a un site où on pourrait, d'autres personnes pourraient avoir accès aux ventes de la commune de Carnac, notamment, parce que peu importe à qui c'est attribué, je m'en fiche. C'est juste sur le principe, est-ce qu'il y a pour les ventes?
Bien sûr. Monsieur Lejean.
Alors oui, on a un site de web enchères pour ce bateau. Si vous voulez, vu l'état qu'il était, on a préféré faire une reprise directe par le fournisseur du nouveau bateau qui nous le reprenait à 250 euros. Et Monsieur Emmanuel Philippot a proposé 350. C'est pour ça qu'on lui a cédé. Autrement, systématiquement, c'est sur le site de web enchères, dont dernièrement nous avons vendu d'ailleurs notre tracteur. Prendre un exemple.
D'autres questions sur ces décisions du maire? Ok, je vous propose de passer à la modification donc des compositions des commissions municipales, donc suite à la démission de Monsieur Chapelle, et donc Monsieur Chapelle sera remplacé en commission urbanisme par Madame Sculot. Et donc Madame Justine Vienne remplacera Madame Sculot à la commission enfants, jeunesse, scolaire et sport. Pour une raison très simple, c'est que Madame Vienne, qui travaille dans l'immobilier, n'a pas souhaité être à la commission urbanisme, et je salue son éthique, et je pense qu'effectivement c'est une bonne chose. Bravo Justine de nous avoir fait penser à cela, et c'est, je pense, une bonne décision. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des... Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Quatrième rapport, il s'agit donc de remplacer M. Chapelle à la commission d'appel d'offres. Et donc c'est Mme Justine Vienne qui le remplacera. J'imagine qu'il n'y a pas de commentaires, ni même de vote contre ou d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Toujours une commission, cette fois-ci la commission marché. Et donc, il vous est proposé donc de désigner les membres de cette commission marché élus. Et je vous proposons donc la liste suivante. Je crois que, Yann, tu as accepté de faire partie de cette commission. Parfait, au titre de la minorité. Et donc, la proposition de cette commission marché... dont Pascal Lejean est donc le président et le représentant du maire, sera donc de Pascal Lejean, Catherine Isoard, Christine Lamandé, Juliette Cordès, Katia Sculot, Yann Guimard et Catherine Alain pour ce qui concerne les élus et à titre d'information de suppléante pour Catherine, pardon, et à titre et au titre des représentants syndicaux pour information, donc Serge Daniel, Christophe Lenivinen, Frédéric Désiré, Jérôme Lamotte, Nicolas Grignou et Nicolas Lelostec. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, sur la concession d'aménagement Bellane-Bellevue et l'avenant de prolongation.
Voilà, vous avez tous reçu un petit document qui vous retrace un petit peu en 10 points, j'avais essayé de faire ça en 10 points, sur effectivement l'historique de Bellane-Bellevue et la sortie de Bellane-Bellevue, de la reprise de ADM par BSH. Et donc, pour pouvoir, nous avons passé au dernier conseil municipal cette proposition, enfin, nous avons donné notre accord pour que BSH puisse reprendre les actifs de ADM, les actions et les actifs. Et donc là, il est proposé de passer au conseil municipal une prolongation de la concession de 5 plus 3 ans pour pouvoir définir le cahier des charges avec BSH pour réaliser Bellane-Bellevue. Avez-vous des questions sur l'historique ou ça vous a paru clair, le petit point que j'ai fait derrière ?
C'était assez exceptionnel de rendre clair quelque chose qui ne l'est pas, parce que c'est vraiment une affaire extrêmement compliquée. Donc oui, le document était très bien fait.
En fait, une précision, parce qu'après on va voter le protocole transactionnel, c'est qu'il fallait, comme c'est pas encore, on est en cours de passation, il faut faire l'avenant avec EADM parce que BSH reprend le tout après.
C'était voilà, tout à fait. Et il y a un transfert de patrimoine qui sera fait au mois de janvier une fois que BSH aura absorbé EADM.
D'accord. Merci.
Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Madame Morgane Petit vient d'arriver. Et pas de souci. Et j'en profite pour signaler, puisque nous avons, et merci Jean-Claude d'être présent, tu es l'unique, ce n'est pas un conseil municipal à huis clos, j'attire simplement ton attention que si on termine à 19h55, il faudra que je te fasse une petite dérogation pour que tu rentres chez toi. Je ne voudrais pas que tu attrapes une amende par la maréchaussée. Voilà. Il fallait que je le dise. Le protocole transactionnel, monsieur Lejean ?
On reprend un petit peu ce que je venais de vous dire avant. Hein. C'est un protocole transactionnel donc en accord entre la mairie et BSH pour reprendre le dossier Bellane-Bellevue. Je fais court. Hein.
Depuis qu'il est vice-président à ACTA, je ne sais pas, c'est plus le même. Hein. Il est devenu extrêmement synthétique. Bon, en tout cas, c'est une façon de clore ce dossier hein, qui a été entamé par et qui a été suivi par de nombreuses municipalités. Hein, j'allais dire de clore administrativement. Maintenant, il va falloir qu'on s'attache à le réaliser parce qu'on a vraiment besoin de construire des logements pour les jeunes familles, des logements aidés, de l'accession à la propriété. Et c'est évidemment l'objet principal de ces deux projets qui ont été malheureusement très longtemps retardés à cause des atermoiements et de la mauvaise gestion de ADM. Je souhaiterais au passage, je vais pas trop l'encenser parce que sinon déjà avec son élection à la vice-présidence, il va avoir un melon pas possible. Mais je voudrais remercier tous les gens qui ont contribué à la rédaction de ce protocole transactionnel. Dieu sait si ça n'a pas été simple. Pascal, qui a largement contribué. On a eu beaucoup de réunions avec BSH. Et je dois dire que jamais je n'aurais pensé qu'on aurait obtenu de telles conditions. Parce que là, je pense que la commune est vraiment parfaitement sécurisée dans ce dossier. Et c'est une bonne chose. Un bon deal, c'est quand l'ensemble des parties sont contentes. Je pense que le département est heureux, BSH est heureux et la commune est heureuse. Donc maintenant, passons non plus aux avocats, mais à la réalisation, parce qu'on a cruellement besoin de logements sur la commune, notamment pour les jeunes familles, les jeunes salariés, pour lesquels il est très difficile d'acheter et de vivre même à Carnac. Est-ce qu'il y a des commentaires avant qu'on passe au vote sur ce protocole transactionnel ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, budget principal ?
Oui, alors comme tous les ans à cette époque-ci de l'année, vous savez qu'on vote la DBS, hein, qui nous permet de pouvoir réaliser les investissements avant d'avoir voté le budget primitif. à la hauteur de 25% des investissements qui ont été faits en N-1. Donc on vous propose donc la possibilité d'investir jusqu'à 1 530 000, et on vous propose de donner l'autorisation de pouvoir investir à la hauteur de 762 000 euros dans les différents chapitres que vous avez sous les yeux. Avez-vous des questions?
Le système d'arrosage, enfin la 13, tennis de Beaumère.
Oui.
On lui a fait cadeau cette année de 23 000, si je dis
tout
pas
à fait,
pour les loyers.
Tout à fait.
On lui a payé le tennis paddle.
Il y a non.
Le terrain, l'aménagement du terrain.
Là, non,
on
non,
lui a
non,
20
non,
000
non, non,
pour
non,
l'arrosage.
Non, non, non.
Est-ce que,
non,
je finis juste. Est-ce que on a des chiffres de son chiffre d'affaires, bilan ou autre?
Ah bah évidemment.
Parce que
alors.
Parce que, moi, de l'extérieur, je suis chef d'entreprise aussi. Je trouve qu'on donne beaucoup d'argent juste à cette société-là ou des SP-là. Voilà, c'est juste pour savoir où va l'argent et comment il est utilisé.
Pas de problème. Je suis un peu surpris. Au dernier conseil, on a passé des abandons de créances pour une hauteur de 6 000 euros, ou un peu plus d'ailleurs, qui étaient les anciens locataires, je vais appeler ça comme ça, du tennis de Beaumère. Et en plus, ça a été étalé sur 3 ans. C'est-à-dire que c'était 3 années, ils n'ont pas payé. Là, on a un opérateur qui paye derrière, qui a repris, je vous rappelle qu'il y a eu un protocole qui a été fait avec l'ancienne équipe municipale et qui avait été bien fait avec Daniel Joss, qui était mon remplaçant à l'époque, dans lequel, à l'époque, la commune ne pouvait pas investir. Et donc, c'est Christophe Coin qui a investi sur la réfection des tennis. Et en contrepartie, il avait un loyer moindre pendant un certain nombre d'années. Christophe Cointe est revenu nous voir en nous demandant de développer, de savoir si on pouvait développer et investir effectivement dans des paddles. Il nous avait proposé à l'époque de refaire la même chose. Moi, je lui dis, on est sûr du terrain communal, il est tout à fait normal que ce soit la commune qui investisse effectivement si on est d'accord. Ce qui a été fait, en contrepartie, on a revu les loyers, on est bien d'accord. Donc on a réintégré la quote-part, puisque ça arrivait à échéance, qu'il avait de réduction sur ses loyers par rapport à ses premiers travaux que lui avait financés. Et on a rajouté, sur la base d'un amortissement, je vous rappelle, de 10 ans des paddles, un loyer supplémentaire. Ce qui est aujourd'hui, de mémoire, j'ai plus ça en tête, mais je vais vous dire, de l'ordre de 28 000 ou 30 000 euros qu'il paye aujourd'hui par an. Dedans, on a prévu effectivement, pour maintenir cet espace municipal en état, de faire des investissements. Pendant un bout de temps, il n'y avait pas eu. Donc on a prévu avec lui un investissement de 10 000 euros par an. Or, en 2020, nous avons une première partie des arrosages à remettre en état, qui n'a pas pu être fait, excusez-moi, à cause du Covid. Et donc on a décidé de le reporter en 2021 et de faire les deux. Le but, c'est de maintenir cet outil en état en ayant un loyer qui aujourd'hui ne coûte rien, alors qu'avant, ça nous coûtait de l'argent et en plus, on n'avait pas de loyer.
Je ne change rien au fait qu'on met beaucoup d'argent dans ce tennis-là.
On en met moins qu'avant.
Ouais. Non, premièrement, on en met
avec moins. On en met moins. Non, mais en trois fenêtres, Yann, on en met moins qu'avant. On en récupère aujourd'hui et on a un outil qui fonctionne et qui est sollicité par les clients.
Non, mais en plus, n'oublions pas que c'est un affermage. Hein, donc la structure continue d'appartenir à la commune. Et d'abord, je pense qu'on a le compte d'exploitation chaque année. C'est vraiment pas une activité qui génère beaucoup de revenus, ni même et encore moins des bénéfices pour l'opérateur. Ça participe à l'attractivité de la commune parce que avoir un beau tennis club l'été et il est très fréquenté. C'est important. Et par ailleurs, il n'y a rien de pire quand on a un asset immobilier ou une infrastructure que de sous-investir régulièrement parce que, effectivement, on pourrait faire des économies de bout de chandelle, mais à la fin de l'enfermage, vous retrouvez avec quelque chose qui n'est quasiment plus opérable par un autre opérateur ou dans lequel vous avez à investir des sommes très très importantes. Donc, comparé à d'autres infrastructures communales importantes comme le stade, le yacht club, qui participent aussi à l'attractivité de la commune, je pense que c'est de loin l'infrastructure dans laquelle on investit le moins. Il s'agit simplement de la maintenir à son niveau. Et je crois que M. Cointre fait vraiment un travail, j'allais pas dire presque désintéressé, parce qu'effectivement, il en vit, mais il sera jamais millionnaire en opérant ce tennis club. Donc je pense que les investissements qu'on fait, ils sont absolument nécessaires. Et encore une fois, on est rentré plutôt dans un cercle de gestion qui est vertueux, là où avant on ne touchait pas d'argent. Aujourd'hui, on a quelque chose qui fonctionne et qui permet des revenus réguliers à la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette décision modificative ?
La DVS.
Oui, juste par rapport au tennis de Baumer, j'entendais M. Lejean qui disait que, enfin, quelque part, avant, on n'investissait pas forcément. Enfin, en tout cas, la méthode était différente, en effet, proposée par M. Joss.
Daniel.
Pardon ?
Daniel.
Oui, M. Joss.
Ah, j'ai compris, Michel, excusez-moi.
Non, non, M. Joss. Et il me semble que ça revenait à peu près au même, c'est-à-dire que là, en effet, le loyer était moindre, mais les travaux étaient faits par M. Coin. Bon, ça, c'est un détail. Concernant votre politique d'investissement régulière, à la limite, je trouve ça plutôt favorable. Vous dites 10 000 euros par an. Ce serait bien si tous nos bâtiments, ou en tout cas certains, comme la salle sous les tribunes ou autres, avaient bénéficié de ces mêmes investissements, ce serait bien aussi parce que ça éviterait que notre patrimoine parte à volo. Et quand on voit la porte, ne serait-ce que de la salle sous les tribunes, les fenêtres ou autres, ça mériterait aussi que ce soit pris en charge.
Non, mais vous avez parfaitement raison, Madame Le Golvan. Il faut essayer effectivement d'investir régulièrement et de maintenir en état les infrastructures. Je pense que chaque municipalité, la nôtre y compris, peut être se sentir, enfin voilà, ce genre de reproches sont parfaitement légitimes, mais je pense que c'est aussi le cas pour les municipalités précédentes. Je pense pas que vous ayez beaucoup investi dans cette salle d'ailleurs quand vous y étiez, mais vous avez parfaitement raison. L'idéal, c'est d'investir régulièrement dans les infrastructures pour éviter d'avoir au bout de 10, 20 ou 30 ans un gros billet à sortir. Je suis assez d'accord. On essaye de faire au mieux, mais voilà, c'est compliqué parce que le patrimoine communal est important et puis il y a toujours des arbitrages à faire. Donc, mais sur le principe, je suis tout à fait d'accord.
Faut pas vous méprendre, il n'y a pas de reproche. Je fais simplement des constats. Et le passé, c'est bien. Vous revenez sans arrêt sur le passé, mais moi, si je suis encore là, c'est parce que je continue et j'ai franchement d'entendre ce qui s'est passé sur les anciennes municipalités. Il y a pas. Je pense que si on avance tous ensemble, tous autour de cette table. C'est pas pour se
Madame Le Golvan, je viens de vous dire que j'étais d'accord avec vous. Je disais simplement que la critique est aisée, l'art est difficile.
Il n'y avait pas de critique de ma part. C'est un constat.
C'est pas une critique. Je répondais à votre interrogation sur le fait que, idéalement, effectivement, il faut investir régulièrement dans les infrastructures municipales. Et je prenais sur moi le reproche de dire qu'effectivement, les municipalités ont beaucoup de mal à faire ça parce qu'on a un patrimoine très important. Mais je dis simplement que c'était pas un reproche non plus. Faut vous faire remarquer que vous étiez face au même problème quand vous étiez adjointe et que c'est pas facile de maintenir la totalité du patrimoine quand il est important. C'est tout.
Enfin, moi, je voudrais juste terminer. À chaque fois qu'on récupère quelque chose, on va prendre le tennis de Baumer ou un autre bâtiment ou autre chose, on essaye effectivement après d'appliquer un entretien régulier. Hein, ce que je l'ai vendu souvent à mes collègues, je les embête avec ça. Alors c'est pas un amortissement puisqu'on est dans du public et pas dans du privé. Ce que je dis toujours, c'est des coûts d'entretien des bâtiments derrière pour éviter demain de se retrouver effectivement à être coincé. Et on en a un exemple, hein, ça peut être aussi la mairie, hein, parce que voilà, on en a un concret. Mais on systématiquement le fait et dans le cadre effectivement, tout ce qui est en dessous des tribunes. Ça fait partie aussi des choses qu'on va essayer de mettre en place pour pouvoir après avoir un suivi d'entretien et qu'on ne se retrouve pas avec un espace qui est complètement obsolète.
D'autres questions sur ce, Madame Le Golvan ?
Dans la continuité, alors là pour moi, quand je dis qu'il faut investir dans les bâtiments, mais on sait tous que le restaurant scolaire est amené à être détruit puisqu'on en parle et c'est ce qui a fait qu'on a construit notre cantine scolaire. Et là, on sait aussi que pendant la construction de la cantine, le judo était accueilli, je crois, dans les locaux au-dessus des corrigans. Je ne sais pas si c'était bien, pas bien, mais enfin, ce n'était que provisoire, puisqu'une salle était prévue. Et d'ailleurs, on a budgété 20 000 euros pour les travaux de la future salle de sport. Et là, je vois qu'on dépense 15 000 euros de sécurisation, peu m'importe, mais en tout cas, ça m'interroge. Je m'interroge en me disant pourquoi est-ce qu'on va mettre 15 000 euros dans un bâtiment qui est amené à être détruit, surtout qu'on avait une solution temporaire qui avait l'air de fonctionner, qui était au-dessus de l'école des Corrigans. Et qu'en plus, un projet, visiblement, puisque vous avez inscrit 20 000 euros au budget pour des études pour la future salle de sport, hein, en tout cas, c'est ce qui est prévu, en tout cas, qui est projeté quand on regarde vos opérations. Donc voilà, moi, par contre, là C'est plus d'entretien.
Laisser Loïc ou Christophe répondre. En fait, non, la solution au-dessus de l'école n'était pas pérenne, et particulièrement en période Covid. Donc en fait, il a fallu trouver une solution pour que les enfants qui sont très nombreux à pratiquer le judo puissent continuer à le faire. Et donc la cantine était effectivement lieu idéal. Donc soit on ne faisait rien et il n'y avait plus de judo, soit on investissait et on mettait aux normes assez rapidement cette salle en investissant 4000 euros pour que les enfants puissent continuer à faire du judo. On a choisi cette solution.
J'ai rien à ajouter, c'est exactement ça. Parfait.
Et justement, puisqu'on met 15 000 euros, donc c'est fléché pour le judo, est-ce que ça servira à d'autres activité, puisque oui. Ce sera sécurisé pour...
Oui, c'est prévu que d'autres associations puissent venir aussi dans cette salle pour pouvoir exercer en toute tranquillité. Covid oblige un certain nombre d'activités qu'ils ne peuvent pas réaliser aujourd'hui parce qu'ils dépassent la jauge ou il y a des problématiques. Oui, c'est 15 000 euros, c'est aussi pour ça, pas que pour le judo. Voilà.
On peut savoir quelles activités ? Par exemple,
Krav Maga, il y a du yoga qui était aussi dans la salle qui était sous les tribunes et il manquait de place. Donc dans la salle du judo, il y aura aussi cette possibilité. Dans la salle de la cantine, pardon.
Vous savez quand est-ce que vont réouvrir les salles ? C'est une question, puisque comme vos associations, elles étaient fermées. Est-ce que vous avez une idée ou pas ?
Je suis comme vous.
Pardon ?
Non, pas
non
pour,
mais Nadine,
pas
c'est...
pour samedi.
Ben, je ne sais pas si...
C'est votre question est assez complexe. Vous savez qu'il y a jusqu'au 15 janvier, il y a un certain nombre de données qui sont à prendre en compte. Il y en aura sans doute d'autres après les fêtes de fin d'année. Madame Soleil est morte et je ne vais pas la remplacer. Donc, voilà.
Je vais continuer, si vous voulez bien. Sur la 38, il y a un système de visioconférence de la salle du conseil. Et mon droit à l'image, là, du coup ?
On l'a intégré dans le budget. On sait que ça va être très, très cher. Mais la commune a les moyens de se payer le droit à l'image de Yann Guimard.
Par rapport à la visioconférence, ça aurait mérité qu'il y ait un débat, savoir si on était tous d'accord de
Ah non, mais on n'a pas dit qu'on allait retransmettre le conseil municipal. C'est juste pour faire des réunions dans le cadre de l'activité de la commune. Le jour où on décidera ça, effectivement, on en parlera ensemble.
D'accord.
C'est juste parce qu'il y a énormément de réunions qui aujourd'hui se passent sur Zoom ou sur... malheureusement, enfin j'espère que ça ne va pas durer indéfiniment. Mais voilà, on n'avait pas cet outil. Quand on a fait par exemple l'AG de paysage de Mégalith, il y avait 80 personnes connectées, mais c'était vraiment du bricolage. Donc on a vraiment besoin d'avoir un outil. Dans un deuxième temps, on verra bien si un jour on retransmet ou pas, comme le font certaines communes, en vidéo et en direct le conseil municipal. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, ce système n'est pas fait pour ça.
Au contraire, si vous investissez autant, c'est que ça puisse se faire à l'avenir.
Alors en fait, c'est un système de vidéoconférence qui n'a pas pour objet la captation du conseil municipal. C'est la capacité d'avoir des réunions avec des acteurs dans différents lieux hors du présentiel. Donc, mais c'est un autre système si on voulait filmer.
Une petite dernière, c'est la 203, il y a l'acquisition de chalets pour 35 000. Je sais que ceux existants sont pourris, ça va. C'est juste pour savoir combien de chalets est prévu avec ce budget et si on a une idée un peu de l'utilisation qu'on va en faire.
Ah bah, j'imagine, j'espère, monsieur Lejean.
Alors, le mot chalet, il n'est pas bon, joker. Je suis désolé, c'est un remplacement des billetteries pour nos opérateurs touristiques sur le parking du Ménèque. Nous avons utilisé, donc suite à la demande du CMN il y a maintenant 3 ans, qui voulait une harmonie sur le site pour supprimer les billetteries de chacun avec les couleurs qui n'allaient pas sur le site. Nous avons mis les chalets qu'on avait sous la main. Nous avons travaillé derrière pour savoir ce qui pouvait être autorisé par le CMN, pour que ce soit avoir l'agrément. Et donc là, nous avons plusieurs propositions. Donc c'est de reprendre en fin de compte, alors ça sera pas un chalet, ça sera un toit plat, une billetterie qui soit un peu plus grande que les chalets derrière et qui reprenne en bois bien sûr, hein, en bois traité, voilà, et qui reprenne ce qui a été fait sur les toilettes publiques du CMN pour rester dans le cadre. Et donc c'est 3, pour être clair, il y a 2 chalets, 2 billetteries et ce qu'on appelle un abri pour l'attente de la clientèle. L'objectif après de cette démarche est aussi pour repositionner l'ensemble des bâtiments, des petits chalets que vous pouvez avoir sur le boulevard de la plage ou n'importe où, ou nos opérateurs qui sont sur la base Est, pour aussi avoir demain de voir comment on peut uniformiser tous nos partenaires qui sont là saisonniers sur les opérations, soit nautiques ou de plage.
Juste une question, ces chalets donc seront démontés quand la saison sera terminée ?
Alors, les chalets, donc ces chalets ou ces billetteries, comme vous voulez, ne seront pas démontés, seront enlevés. Donc, elles sont prévues pour pouvoir être accrochées directement avec notre camion grue, pour pouvoir mettre sur le camion et d'être stockées au CTM.
Alors, une petite précision à Madame Le Gollan, puisque Madame Carole vient de me le dire. En fait, si un jour le conseil municipal décidait de la captation du conseil, en fait, les élus ne peuvent pas refuser d'être en ligne. C'est une disposition légale. Donc, mais pour l'instant, enfin, voilà. De toute façon, on en débattra ensemble, hein, mais on n'a pas pris cette décision. Mais enfin, voilà, un élu ne peut pas s'opposer, il ne peut pas être masqué, c'est ça ? Sauf en ce moment. Et ni refuser voilà, une captation vidéo. Donc, je sais que Van le fait, Auray le fait. Pour l'instant, je sais pas. À moins, je sais pas ce que vous en pensez quoi, en fait. je pense que ça peut être intéressant pour des Carnacois de suivre ça de chez eux. Hein. Enfin, pour moi, c'est une question de transparence et de démocratie. À titre personnel, j'y serais pas opposé. Après, il faut voir si on fait investissement ou pas. Bon, on aura l'occasion d'en débattre. Monsieur Laborde, une question.
Oui, c'est pour la numéro 110. Je vois 50 000 euros pour le dossier loi sur l'eau et les études de remise en eau. J'imagine que c'est pour l'étang de Carloquet. Donc, est-ce qu'on a une étude déjà qui a été mise en place, qui a été lancée ?
Alors, en fait, on a une étude qui est lancée sur la partie qui est montée. On a consulté le
Consulter le cabinet ISL sur l'étude, qui la première partie de l'étude qui porte sur le barrage et les travaux qui conviendraient d'y lancer. Donc l'étude est lancée, le cabinet va commencer, je crois, fin début janvier, à travailler sur le sujet. Mais oui, l'étude est lancée. Mais ça, c'est pas seul. Après, il y a une étude aussi loi sur l'eau qui là est beaucoup plus complexe, mais qu'on lancera une fois qu'on aura la certitude que physiquement le barrage est suffisamment solide. On va pas lancer les deux en même temps si la première nous empêche de lancer la seconde. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Décision modificative numéro 2 sur le budget du musée, pardon, monsieur Lejean.
Oui, donc toujours dans le cadre de la DBS, pour un montant de 43 284,50 €. Je pense qu'on n'a pas le bon document, c'est pas grave. Vous l'avez avec vous ?
Oui, il est dans le rapport.
Donc c'est juste la principale dépense, c'est la finition de l'aménagement de l'espace enfant au musée.
Pardon. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Budget principal, décision modificative numéro 3. Toujours monsieur Lejean.
Alors, on va l'avoir à l'écran. Donc, c'est la décision modificative en recettes de fonctionnement et en recettes et en dépenses d'investissement, à la hauteur de 200 euros pour effectivement sur le fonctionnement et de 25 000 euros au niveau de l'investissement. C'est pour l'étude, si je dis pas de bêtises, on est sur le budget du musée, hein, pour que tout le monde suive, hein, parce que... Hein, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour ça. Et c'est donc tout simplement un rajout pour l'étude qu'il y a sur le musée, puisqu'on avait voté 60 000 euros pour l'étude. Aujourd'hui, nous avons passé les candidats qui ont été retenus, donc il fallait rajouter 25 000 euros. en dépenses et on a rajouté 25 000 euros en recettes puisque nous avons eu les notifications des subventions, sachant que nous aurons plus de subventions que les 25 000 euros. Mais pour l'instant, nous avons inscrit que ce que nous avions besoin.
Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'on est à 85 000 euros juste pour l'étude.
Tout à fait. 76 000 qui a été voté en hors-taxe, enfin, voilà ce qu'on a voté le dernier conseil.
C'est la délib 12 de grand plomb.
Il y a d'autres questions sur cette décision modificative? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Les fameux APCP, monsieur Léon.
Non, on va peut-être voir la décision modificative de la commune, même s'il n'y a pas grand-chose pour une fois.
Ah oui, c'est vrai.
Puisque en fonctionnement, il n'y a rien. Et nous avons tout simplement en investissement, et c'est des demandes, c'est des opérations d'ordre à la demande du trésorier. C'est pour ça qu'à cet équilibre, que vous avez systématiquement rien du tout.
Ben non, j'ai bu avant.
T'as bu avant?
Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport?
Juste une question, monsieur Jean. Opération patrimoniale, du coup, qu'est-ce qu'il intègre dans quelle était la demande réelle? Parce que moi, je vois opération patrimoniale, je me suis posé la question.
Alors, c'est des opérations d'or.
Dans le détail, je ne pourrais pas vous répondre ce soir. Si vous voulez la réponse un peu plus tard, je vous donnerai le détail, mais c'est des opérations d'ordre que nous a demandé le trésorier. Il y a des changements de compte, comme on le voit à chaque fois qu'on passe une décision modificative ou un budget, vous voyez qu'il y a des modifications. Ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est qu'on se rapproche, il y a des modifications dans la M14 et la M4, dans les deux, hein, que ce soit pour l'OT ou pour la commune, et qu'on se rapproche petit à petit, effectivement, d'une gestion un petit peu plus privée derrière, et donc il y a des modifications. Philippe, je sais pas si tu as la réponse ou pas. Dans le détail, tu es comme moi, je suis désolé, mais je vous la donnerai après.
À chaque fois, on a les grosses lignes, mais même si on vote par chapitre, après, il y a quand même un détail. Et pour nous, on peut être novice, ou en tout cas, on a besoin de savoir.
Alors,
je trouve que c'est intéressant de savoir, d'aller dans le détail pour bien comprendre où est-ce qu'on enlève pour ajouter dans un autre chapitre, sur une autre ligne.
Alors là, on enlève du chapitre 041, et vous l'avez dans le 041 en recettes et en dépenses d'investissement. Là, on les... Voilà. Voilà, comme sur les subventions d'équipement versées, les immobilisations en cours, c'est un changement de compte, tout simplement, d'amortissement de subvention. Eh, mais je vous donnerai le détail la prochaine fois. Ou quand vous voulez, vous passez, je vous donnerai le détail.
Il y a d'autres questions sur ce rapport? On peut donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Toujours monsieur Lejean.
Alors, sur les APCP, donc vous savez qu'on avait voté pour avoir fait 5 APCP. Vous les avez sur le premier tableau. Donc, 2 APCP qui n'avaient pas effectivement de dépenses, qui auraient dû être clôturées en 2020. Suite au Covid, elles n'ont pas été clôturées en 2020. Donc, on est obligé de modifier pour pouvoir faire des dépenses en 2021, sachant que le montant global ne change pas. C'est un décalage en termes de travaux et de paiements suite au Covid. Et sur la troisième, c'est juste une modification de montant, où là, effectivement, on a payé une partie un peu plus rapidement, c'est-à-dire 20 000 euros, et qu'il reste 74 000 euros à payer en 2021 sur le rond-point du Lignol. Mais le montant global ne change pas.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces APCP? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Servet, sur le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir l'étude de programmation pour la rénovation du musée de la préhistoire de Carnac.
Oui. Donc, suite à l'appel d'offres qui a été lancé mi-octobre et dont les retours d'offres nous sont parvenus le 13 novembre, et après analyse des offres et une journée d'audition pour les 3 offres qui nous paraissaient les plus intéressantes, le choix de la commune s'est porté sur le groupement Softloft, Cantara et SCE. pour un montant en tranche ferme de 79 904,50 euros hors taxes et une tranche conditionnelle optionnelle sur laquelle on se positionnera au cours de l'année 2021 à hauteur de 15 947 hors taxes. La tranche ferme porte sur l'étude de programmation. La tranche optionnelle porte sur une mission complémentaire qui serait confiée aux programmistes portant sur l'établissement du cahier des charges d'appel d'offres de maîtrise d'œuvre et l'assistance à la commune dans l'appel d'offres et l'analyse des offres de maîtrise d'œuvre dont on aura besoin à partir de la fin d'année prochaine à peu près pour entamer véritablement la réalisation du futur musée. Je souligne juste que l'analyse des offres et le choix qui en a découlé a été fait découle d'une analyse et d'une convergence totale entre Cathy et moi pour les élus, Anne Zeb notamment et pour les services techniques et Céline Cornet, Olivia Goguet pour le musée, et des services de la DRAC et des musées de France qui ont participé efficacement à cette analyse d'offres. Et l'ensemble de nos avis ont totalement convergé sur le choix qui a été fait.
Et que c'est très largement subventionné aussi quand même.
Tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, on a les retours de la DRAC, du département et quasi finalisé de la région. Le montant de subvention pour cette tranche ferme au cumul devrait atteindre entre 75 et 80%. On attend les dernières confirmations de la part notamment de la région.
Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce marché public? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Un beau projet qui commence, sur lequel nous aurons tous à nous pencher et à travailler. Monsieur Lejean, reversement de la taxe de séjour de l'Office du tourisme, comme tous les ans.
Comme tous les ans, hein, on vous demande effectivement de reverser sur une base de 510 000 euros la taxe de séjour à l'Office du tourisme par trimestre en 4 fois. C'est la même chose depuis 2017.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport, Madame Le Golvin?
Juste, vous avez une idée du montant de la taxe de séjour, ce que ça représentera pour 2020?
On devrait avoir un atterrissage aux alentours de 440-450 000 euros.
D'accord.
Mais derrière, on aura une compensation de l'État, comme l'avait précisé M. Boitoura lors du conseil municipal à la présentation du CA.
Et la taxe de séjour, les 440 000, c'est avec tout, enfin, parce qu'on a vu...
Alors
que
c'est sur l'année. Oui. On aura sans doute un reliquat sur tout ce qui est les opérateurs Airbnb, Abritel et ainsi de suite, qui sera un peu décalé, hein, surtout si on a pas mal de visites sur les 15 jours à venir.
Oui, parce que l'année dernière, ça avait représenté quand même un certain montant. Airbnb, ça a été...
Tout à fait. Enfin, l'ensemble, pas que Airbnb,
non,
Abritel, Airbnb, oui, un peu plus de 100 000 euros.
Oui.
Tout à fait. Alors après, je vous rappelle, hein, on a toujours un petit décalage dans ce qui apparaît, ce que j'ai expliqué encore cet après-midi, hein, dans ce qui apparaît dans la taxe de séjour, puisqu'on a le montant réel, effectivement, de l'année qu'on estime, mais après, il y a les versements qui sont décalés, et y compris des reliquats N-2. Puisque quand vous avez clôturé au mois de mars ou au mois de février... les comptes de la commune et les comptes de l'OT, et sur, effectivement, la fin d'année, vous avez certains qui ont des paiements qui arrivent au mois de mars ou au mois d'avril. Donc, on a des reliquats qu'on voit tous les ans. Là, je vous parle de la taxe de séjour réelle par rapport, effectivement, à l'année civile.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote, hein, sur ce reversement de la taxe de séjour 2021 à l'Office du tourisme. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, toujours sur l'Office du tourisme, la convention d'objectifs et de moyens.
Tout à fait. Donc, une convention d'objectifs et de moyens entre la commune et l'Office du tourisme pour la période 2021-2026. Et grosso modo, on a repris exactement les mêmes termes qui étaient entre 2014 et 2020. juste les petites évolutions qu'on a fait faites. Enfin, si vous avez pu suivre, je vous en donner quelques-unes, hein, mais c'est vraiment d'actualiser. Dans l'accueil information, l'article 1, les missions d'intérêt général AA, accueil information, on a rajouté un accueil d'information dans la maison des mégalithes qui n'existait pas à l'époque. Voilà. Donc on a aussi précisé que accueil et information décentralisée, développer la décentralisation de l'information touristique tant chez les professionnels du tourisme que dans des lieux publics clés du territoire. Donc c'est des choses qui n'existaient pas. Excusez-moi. Derrière B, promotion, communication, on a rajouté un objectif à 6 ans, développer une promotion, communication à la destination de Carnac largement basée sur les outils numériques, développer des actions de partenariat et de services avec des acteurs touristiques du territoire, CDT, ADT, SPL, Sensation Bretagne, puisque je vous rappelle que nous sommes, en fait, faisons partie, nous travaillons avec le CRT, qu'on est au conseil d'administration de l'ADT, au conseil d'administration de la SPL et au conseil d'administration de Sensation Bretagne. Voilà les petites choses qu'on a rajoutées. Faire de Carnac une destination touristique durable d'excellence. Imposer à Carnac comme une destination du patrimoine incontournable en s'appuyant sur le futur classement à l'UNESCO, qui n'était pas écrit. Donc différentes petites choses comme ça. Avez-vous des questions ou voulez-vous que je continue?
Oui. Oui, je vois qu'on met à disposition un garage à l'intersection de la rue du Ménec et de la rue de Bellevue. Est-ce que c'est nouveau ou c'était déjà dans l'ancienne?
C'était déjà dans l'ancienne.
D'accord.
C'est pour le stockage des documents et des fanions et ainsi de suite.
Il n'y a pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur le vice-président de l'intercommunalité, maintenant nous parler de l'approbation de l'attribution de compensation définitive 2020, sur laquelle il veillera avec...
Je suis pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, oui, ça va venir. Oui, alors juste l'attribution de compensation au dernier conseil municipal, on a parlé de la CLEC, vous savez, pour l'aide que faisait ACTA au niveau de la fourniture de masques et de visières. Donc pour un montant qui était Carnac de 8 722 euros et qu'il avait été décidé à la communauté de communes ACTA de les enlever directement des attributions de compensation, d'où la modification de notre attribution de compensation à la hauteur de 2 814 719 euros. Et ceci, c'est pour l'ensemble des communes du territoire de la communauté de communes ACTA.
Il y a des questions sur cette... Petite modification au montant de la CLECT. Pas de questions. Pas de vote contre. Pas d'abstention. Unanimité. Je vous remercie. On passe au rapport suivant. Donc, c'est la convention de partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Centre des Monuments Nationaux gère les sites mégalithiques de Carnac, de Locmaria-Ker, mais également de Barnenez, que par le passé, la relation n'a pas toujours été extrêmement fluide avec les Centres des Monuments Nationaux. Et c'est dommage parce que l'un des principaux problèmes de Carnac, c'est que nous avons à peu près entre 600 et 700 000 visiteurs qui visitent les alignements de Carnac, mais très peu, à peine 8 ou 9% de ces visiteurs, eh bien, viennent soit dans le bourg, soit même à Carnac-Plage. Donc, depuis quelques années, nous avons... et je pense que suite à la direction de Jacques Buisson-Catil, qui était le précédent directeur du site, nous avons donc opéré un rapprochement avec le Centre des Monuments Nationaux, avec lequel nous travaillons vraiment, je dirais, en parfaite symbiose. Je dois dire que Philippe Pellaval, le président des Centres des Monuments Nationaux, est aussi un grand amoureux de Carnac. C'est vrai que le Centre des Monuments Nationaux gère des sites exceptionnels. Il y a Chambord. Enfin voilà, c'est quand même une très très grande maison. Monsieur Pellaval en est le président emblématique. Et nous avons, suite au départ d'Emmanuel Vigier, nous avons pensé qu'il était intéressant, plutôt que d'avoir deux structures qui se regardent en chien de faïence et qui ne collaborent pas ou qui ne collaborent pas assez, eh bien, de faire en sorte que justement au moment où on s'engage dans une rénovation très importante du musée de France, qui est le musée Carnac. Hein, on a encore une fois, je le répète, on a eu une présentation vraiment très intéressante il y a quelques temps, qu'il serait intéressant justement de collaborer de manière beaucoup plus étroite, et notamment en faisant en sorte que les visiteurs du site mégalithique, des alignements, qui vont à la maison des mégalithes, eh bien, soient incités, puisqu'on n'a jamais par le passé réussi à mettre en place des synergies, y compris au niveau de la billetterie, en tout cas pas suffisantes, soient vraiment incités à venir au musée, pour évidemment, si possible, augmenter la fréquentation du musée, et également de concevoir dès le départ ce projet de rénovation dans cet esprit de collaboration, de symbiose et coopération entre les deux structures, de manière à ce que non seulement le musée de Carnac, mais également le bourg, la plage, toute la commune profite de cette manne incroyable que beaucoup de communes nous envient et qui pose aussi un certain nombre de problèmes, hein, on en a bien conscience, de ces 600 à 800 000 visiteurs. Donc avec Philippe Bellaval, on a envisagé d'abord cette convention de partenariat que vous avez sur votre devant vous, hein, qui est une convention de partenariat générale qui porte sur la mise en valeur des alignements de Carnac et du musée de la Préhistoire. Donc c'est une convention qui, je dirais, encadre les relations entre le Centre des Monuments Nationaux et la commune, et également qui permet, eh bien, de détacher Philippe Agoguet, Olivier Agoguet, pardon, qui est l'actuel directeur des établissements de CMN à Carnac, eh bien, va également diriger le musée de Carnac. Donc c'est une idée qu'on a évidemment sur laquelle on a travaillé depuis de longs mois. On a associé les équipes du musée à cette décision. Je pense que les équipes l'ont accueilli avec beaucoup de bienveillance et de joie pour la raison suivante, c'est qu'Olivier Agoguet n'est pas un fonctionnaire, je dirais, national. Il n'a pas été bombardé par CMN. C'était l'ancien patron de l'archéologie du département. Donc il est morbihanais, il travaille depuis très longtemps dans le Morbihan, il connaît les mégalithes, il est archéologue et donc il a tous les diplômes nécessaires et une connaissance absolument étroite de toutes ces problématiques, y compris scientifiques. Et donc j'ai été un peu surpris, mais Philippe Bellaval a accepté que donc Olivier Agoguet co-dirige les deux établissements de manière à non seulement les rapprocher, mais en plus travailler en amont à la réalisation de ce nouveau musée de France. Donc Olivier est quelqu'un de, je sais pas, vous l'avez tous rencontré, hein, non seulement il est compétent, mais il est adorable. Je pense que c'est aussi un très bon manager. C'est un projet assez ambitieux, hein, la rénovation du musée. On parle de budget, enfin voilà, que je vais pas, qui sont aujourd'hui encore très loin d'être déterminés, mais voilà, ce sont quand même des budgets qui vont entre 9 et peut-être 10, 15 millions d'euros. Donc il faut vraiment qu'on ait la structure sur laquelle on peut construire cette. Pascal a déjà mal au portefeuille. Non, mais c'est très largement subventionné, monsieur Lejean, les musées. Et donc c'est avec ce rapprochement, je pense que c'est une base extrêmement solide pour réaliser le meilleur projet possible pour la commune et pour le musée, puisque là aussi c'est une infrastructure dans laquelle on a peut-être sous-investi pendant de nombreuses années et qu'il est absolument nécessaire de rénover. Donc je remercie Philippe Bellaval, hein, qui était là la semaine dernière pour signer une autre convention avec Paysage de Mégalith. Mais en tout cas, je trouve que c'est un beau symbole et enfin cette volonté de travailler main dans la main, je pense que c'est fondamental pour ce projet. Voilà, je pense que vous avez pris connaissance de la convention, vous l'avez lue. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention, Madame Le Golvin ?
Oui, par rapport à... Enfin, c'est bien qu'il y ait cette mutualisation par rapport aux objectifs que vous avez. Par contre, justement, est-ce que, puisqu'il va co-diriger et le CMN et le musée, est-ce que... Enfin, on va signer une convention, mais est-ce que lui-même aura un objectif, parce que vous parliez de faire en sorte que tous les visiteurs des menhirs viennent vers le bourg.
Ça va être compliqué, mais oui, le plus possible.
Non, mais déjà, on n'est qu'à 5 ou 10%.
Non, bien sûr. Alors, il sera évidemment co-manager, c'est-à-dire qu'il a 50% de son temps sur une structure, ou 60% sur une structure, 40% sur l'autre. Et il est évident qu'avec Philippe Bellaval, qui est son autorité de tutelle nationale, et le maire de Carnac, qui est sa tutelle locale pour le musée, on fixera ensemble les objectifs du fonctionnaire. Et donc, évidemment, parmi ces objectifs, ce ne sera pas les seuls. Hein, j'imagine qu'il aura des objectifs spécifiques sur CMN, des objectifs spécifiques sur la mairie, mais il aura également des objectifs communs aux deux structures, et donc qui seront donc co-rédigés par le président de CMN et par le maire de Carnac, enfin en tout cas par Cathy, puisque c'est Cathy qui a délégation sur le musée.
Concernant toutes les mises à disposition, en général, on a le coût de la mise à disposition. Combien ça va nous coûter ?
Alors là, ça nous coûte rien, en fait. On prend simplement le temps. Enfin, ça nous coûte rien. C'est-à-dire qu'en fait, il sera payé 50% par CMN, 50% par la mairie de Carnac.
D'accord.
Donc en fait, au terme, c'est une économie pour la commune, puisqu'on ne paye plus un poste à 100% en fait.
D'accord. Donc il a deux contrats de travail. Il en a un.
Non.
Donc c'est bien une mise à disposition.
C'est une mise à disposition. Donc mais on rembourse le CMN.
D'accord.
Donc, voilà. À la hauteur de la valeur qu'il a effectivement passé le temps sur le musée.
Oui, d'accord. Donc ça, on aura.
Sur la base de sa rémunération actuelle.
Pardon.
Sur la base de sa rémunération actuelle au CMN.
D'accord. Donc nous, c'est quand même bien une mise à disposition. Donc quelque part, dans la convention, on aurait dû voir apparaître combien ça allait nous coûter quand même. Enfin, je sais pas. C'était une question, hein, parce que quand en général, il y a une convention, quand il y a une mise à disposition. Pardon. Ben, il y a eu des mises à disposition qui ont été vues par rapport à des employés de la mairie sur certaines associations. On avait les montants. Enfin, c'était pas faux. Ben, on le verra dans ces cas-là dans le budget du musée, quoi. D'accord.
Monsieur le maire.
D'autres questions sur ce... Monsieur Luneau.
Oui, le CMN n'administre pas le château de Chambord. C'est Azel Rideau. Chambord, c'est le domaine national de Chambord.
Et
le CMN, la question que je me posais, c'est est-ce qu'à un moment donné, vous prévoyez une consultation auprès des habitants de Carnac sur tout ce que pourrait, et probablement ça engendrerait comme modification de Carnac, tout simplement, et de la manière de vivre à Carnac, avec un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le CMN, c'est une grosse artillerie. C'est quelque chose d'énorme. Ils gèrent 100 monuments en France, les tours de Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, le futur... comment il s'appelait ? L'hôtel de la Marine à Paris, transformé en musée, et de tout petits monuments. Et on sait que les gros monuments qu'administre le CMN font vivre les petits, et Carnac fera partie des gros, c'est certain, pour le CMN, et pour pas que ça devienne une... que les menhirs soient une vache à lait, parce que c'est ce qui pourrait advenir. À quel moment pensez-vous demander l'avis des Carnacois sur cette transformation de Carnac, un musée très conséquent, est-ce que c'est prévu, en fait Parce qu'on sait que si vous allez au Mont-Saint-Michel, à Venise ou à Barcelone, on sait que ce genre de politique touristique modifie profondément et de manière assez définitive une ville historique.
Non, les Carnacois sont consultés, il y a une étude qui est en cours, hein, auquel participent les Carnacois. Pour ce qui concerne l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça ne concerne pas que Carnac, hein, c'est 26 communes sur le site. Par ailleurs, votre vision de la gestion par CMN de ces sites me semble un petit peu caricaturale. Je pense que, voilà, pour en avoir visité quelques-uns, je pense que c'est plutôt gérer de manière extrêmement respectueuse des sites, de leur environnement et du patrimoine en général, et que, de ce que j'ai pu voir, le concept de vache à lait n'est absolument pas celui qui est porté par Philippe Bellaval. Il est vrai qu'il y a certains monuments qui rapportent de l'argent, d'autres qui coûtent, hein, c'est clair. Mais si la question c'est de savoir est-ce qu'on fera un référendum sur l'UNESCO auprès des Carnacois, ma réponse est non, c'est clair. Je pense qu'on ne va pas organiser un référendum dans les 26 communes. Je pense par ailleurs que c'est une chance pour pour la commune, même si, encore une fois, les gens aiment bien agiter soit des fantômes, soit des spectres pour faire croire que l'UNESCO, ça va être plus 40% de fréquentation. C'est absolument pas la politique que nous entendons mener. Encore une fois, je le dis, que ce soit pour le tourisme ou pour ce soit le patrimoine, nous n'allons pas vers le quantitatif, on va vers le qualitatif, c'est clair. Madame Le Golvan ?
Enfin, quand on lit tous les articles, on voit bien quand même que le label, parce que c'est un label, le label UNESCO, apporte quand même plus de touristes et plus de tour opérateurs qui viennent sur les sites. Et que avant on disait 30%, si on mettait 20, c'est déjà énorme. Et vous l'avez dit tout à l'heure, nous, on a déjà à nos portes 650 000 visiteurs, alors qu'on n'a pas le label UNESCO. Et on n'arrive déjà pas à gérer ces 650 000, voire à les attirer vers nous. Donc voilà, c'était déjà ça. Concernant la consultation quand même des Carnacois. Alors évidemment, un référendum, c'est peut-être pas un choix. Enfin, en tout cas, c'est pas votre choix. Mais il est quand même noté que pour l'obtention du label UNESCO, il faut quand même l'adhésion des citoyens, voire ici des Carnacois. Donc je pense que si vous n'avez pas, parce que pour l'instant, ça démarre, la consultation des Carnacois, je ne sais pas à quel niveau, en tout cas, pour ma part, je ne sais pas où vous les consultez, mais enfin bon.
Ça s'appelle une élection municipale et elle a eu lieu il y a quelques mois.
Pardon ?
Ça s'appelle une élection municipale et elle a eu lieu il y a quelques mois, c'était dans notre programme.
Oui, je ne dis pas, mais peut-être que tous les points de votre programme ne sont pas appréciés quand même de vos électeurs. Je veux dire, donc la consultation et en tout cas le suivi.
Madame Le Golvan, une élection municipale, on vote sur un programme au global, on ne commence pas à voter sur chaque item qui est dans le programme des listes, sinon on ne serait pas encore élu.
Mais sur ce sujet-là, je pense que peut-être que certains de vos électeurs ne vous suivront pas dans ce sujet-là, tout simplement.
Ah, mais vous avez tout à fait
donc,
raison.
Donc ça mérite quand même la consultation et vous devez avoir le suivi quand même des Carnacois pour obtenir ce label.
Non, mais il y a une étude qui est en cours dans laquelle les Carnacois participent. Hein. Je vous rappelle qu'on a fait des appels à candidature. Petit 2, on fait des réunions publiques assez régulièrement sur l'UNESCO. Là où je vous rejoins, Madame Le Golvan, c'est que bien évidemment, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a des gens qui peut-être ne trouvent que cette opportunité n'en est pas une, ou du moins pas une bonne opportunité. Ceci dit, on retient toujours d'un projet les choses qui vous arrangent. Moi, ce que je retiens de l'UNESCO et du fait que eh bien, nous allons nous battre pour avoir ce label, c'est surtout pour faire en sorte que ces visiteurs, on les accueille mieux, que le patrimoine soit mieux protégé, notamment par des dispositions légales. Et évidemment, enfin, chaque fois que vous parlez de ce dossier, vous parlez des plus 30% ou plus 20% qui sont complètement virtuels. Encore une fois, je vous invite à lire les rapports des sites qui sont classés au patrimoine à l'UNESCO. C'est pas forcément des visiteurs en plus. C'est beaucoup d'autres choses. Donc, le référendum, il a eu lieu. Hein, ça s'appelle l'élection municipale. Je vous rappelle que dans votre programme, vous aviez demandé un référendum. D'ailleurs, je vois pas comment on aurait pu l'organiser, parce qu'encore une fois, ça n'est pas que Carnac, c'est 26 communes. Le référendum, il y a eu lieu, ça s'appelle l'élection municipale. Chacun a eu un programme, les Carnacois ont voté. Ils savent très bien ce à quoi ils peuvent s'attendre, puisque voilà, on a été parfaitement transparent sur notre volonté vis-à-vis de l'UNESCO. Je crois que voilà, il n'y a pas, s'il y avait vraiment eu une rébellion ou une majorité de Carnacois qui n'avaient pas voulu l'UNESCO, et compte tenu de la position que vous avez prise, je pense que l'élection aurait peut-être été différente.
Il faut savoir qu'on ne peut pas prendre position dans la mesure où on n'a pas encore le cahier des charges. Je pense que c'est à ce moment-là où il va peut-être y avoir des réactions, tout simplement.
C'est quoi le cahier des charges de l'UNESCO, Madame Le Golvan ?
C'est-à-dire qu'on va avoir quand même des certains travaux à faire pour la mise en valeur. Enfin, bon,
ça n'a rien à voir avec l'UNESCO.
Peut-être,
ça.
Mais je pense que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des réactions. Juste une question.
Alors, mais justement, il y a une étude qui est en cours sur la redynamisation du centre-bourg. C'est dans ce cadre-là, et pas seulement dans le cadre de l'UNESCO, qu'on va avoir à se prononcer sur les aménagements. Et tous autour de cette table, nous prononcerons sur les résultats de cette étude, sur ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Ça s'appelle la démocratie participative et c'est comme ça que fonctionnent les communes.
Vous avez dit aussi que vous aviez fait pas mal de réunions sur le sujet. Moi, j'ai assisté à une, donc je ne sais pas si... Enfin, je ne vois pas d'autres réunions publiques.
On a fait plein de réunions de quartier dans lesquelles les gens parlaient de l'UNESCO, dans lesquelles j'ai pu exprimer ce qu'était ce projet, la façon dont il se déroulait. Et donc, je pense que les Carnacois, dans les réunions de quartier, ont pu s'exprimer. On a fait deux réunions publiques sur l'UNESCO. On a fait également des conférences. Enfin, je veux dire, je pense que c'est un sujet qui est... qui est très largement, je dirais, ouvert et connu des Carnacois. Je vous propose de passer au vote, Monsieur Buquin.
Oui, Monsieur le maire, si vous permettez, juste en complément. Je pense qu'il faut remettre un peu aussi les choses en perspective. L'État est propriétaire des alignements de Carnac depuis la fin du 19e siècle. Pendant 100 ans, l'État s'est absolument désintéressé des alignements. Il n'y a pas mis un franc à l'époque et a laissé les choses se dégrader petit à petit. Et c'était la municipalité, les Carnacois eux-mêmes, qui entretenaient les alignements. Et puis, il y a 30 ans, en 1990, est arrivé un projet directement de Paris, du ministre de la Culture de l'époque, disant grosso modo, « Braves gens, voici une manne financière qui va s'abattre sur la commune, soyez heureux ». Et dans ce projet, pour ceux qui étaient à l'époque en charge de ces sujets, il y avait la construction d'un bâtiment à Kermario, il y avait tout un tas de travaux, etc., qui, encore une fois, arrivaient tout cuit. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, le ministère de la Culture a été très surpris de la réaction des Carnacois face à un projet qui tombait tout cuit de Paris. Bon. Donc là, on ne parlait pas de démocratie participative ou de consultation des Carnacois. Hein, ça, c'est clair. Et il s'en est suivi 10 ans de polémiques entre le ministère de la Culture, la municipalité, et Dieu sait si la situation était compliquée à ce moment-là. Finalement, ils ont fait machine arrière et les choses ont été très différemment faites. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ce qui se fait aujourd'hui, ce qui a été lancé par Monsieur le maire depuis déjà un certain nombre d'années, c'est vraiment un projet dans lequel, qu'on parle du musée, qu'on parle du projet de l'UNESCO, qu'on parle de réflexion plus générale, c'est vraiment un projet qui est à l'initiative de la commune, avec le soutien des Carnacois, et la convention dont on parle dans ce conseil municipal, elle est emblématique de ce genre de sujet. C'est absolument remarquable qu'on travaille ensemble, que Philippe Bellaval soit venu ici, qu'il y ait une collaboration entre l'État d'une part, la municipalité de l'autre, qui est même maintenant, et ça c'est vraiment c'est un tel contraste par rapport à ce qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans, qu'on doit tous s'en féliciter. On est main dans la main entre l'État et la commune pour un projet qui est quand même de l'intérêt évident de la commune et des habitants. Donc évidemment, on peut en permanence émettre des avis critiques sur tel ou tel sujet. Bon, il n'en reste pas moins qu'on a des consultations qui sont faites. Il y a eu effectivement une élection municipale qui a été la suite d'un long débat. Il y a eu des positions qui ont été prises qui étaient extrêmement claires. Les Carnacois sont prononcés, ils sont prononcés très largement. Donc il y a un moment aussi, il faut aller de l'avant. Et on va de l'avant, encore une fois, main dans la main avec l'État, avec 26 autres communes, avec des scientifiques comme le professeur Coppens qui veillent aussi à ce que l'intérêt du projet et l'intérêt du site soient mis en avant. On protège les alignements, on les met en valeur. Et par rapport à ce qu'aurait été un bâtiment important de l'État à Kermario pour le centre-bourg de Carnac, il est évident qu'aujourd'hui, ça va être tout à fait différent. Parce que précisément, on se préoccupe à la fois de, je dirais, drainer une partie des visiteurs du site vers le bourg, en même temps, sans exagérer, parce qu'on n'a pas de quoi attirer 600 000 personnes dans le bourg ou à la plage de Carnac. Donc tout ça se fait de façon assez mesurée, en concertation et très constructive. Donc à chacun d'y participer. Effectivement, on est au début d'un certain nombre de projets qui vont être vraiment transformants pour la commune. Et on sait très bien que ce mandat municipal va être transformant et structurant pour les prochaines décennies pour Carnac. Et on va y travailler. Je suis sûr que le nouveau directeur du musée aura effectivement parmi ses objectifs, dans tout ce qu'il va faire, de travailler pour le développement du musée et qu'il y ait une symbiose justement entre le site et le musée pour que les gens viennent et en profitent. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut quand même avoir à l'esprit. On est au début d'un processus. Le classement d'un site au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est pas non plus une baguette magique. C'est quelque chose qui participe à la mise en valeur d'un projet ou d'un site, mais c'est pas là non plus une manne qui tombe du ciel. On peut même penser, en tout cas c'est mon point de vue, on verra si ça s'avère exact, mais on peut même penser que ça va plutôt renforcer le nombre de visiteurs hors saison. On peut penser qu'on sature à peu près les visites des alignements l'été. Même si je pense que des aménagements, comme ceux d'ailleurs qui ont été faits sur la partie nord du site, qui sont remarquables, hein, pour ceux qui en profitent, on s'en rend compte tous les jours. Ces aménagements permettront sans doute d'attirer un peu une clientèle de qualité, mais je pense que c'est vraiment hors saison que l'inscription à l'UNESCO va jouer. Donc, bon, encore une fois, il y a des critiques, on peut toujours mieux faire, mais enfin, remettons les choses en perspective, voyons d'où on part, voyons où on est, voyons où on va, et moi je soutiens vivement toutes les initiatives qui sont prises, on va dans le bon sens, dans l'intérêt des Carnacois. C'est ce que je voulais ajouter, monsieur le maire, à ce que vous disiez à l'instant.
Merci, monsieur Lucas. Madame Le Gallo.
Alors, juste pour ce bordereau, donc nous allons voter pour le bordereau parce que le rapprochement CMN et musée donc nous paraît bien sûr important. Et en plus, si ça coûte moins cher, donc là pour la commune, voilà, je pense qu'on va voter pour ce. On avait prévu de voter pour. Par contre, on n'est pas obligé de partager ça. Voilà, le projet UNESCO et puis de s'interroger en tout cas. Après, oui, c'est bien, c'est mal. Ça, c'est personne ne sait dans cette salle si c'est bien ou c'est mal. Mais en tout cas, on est tous là pour en débattre. Et ne pas accepter peut-être tout en se disant « ça va être super » et de laisser tout faire et du n'importe quoi. Donc, de se poser des questions, c'est déjà important.
Madame Le Gallois, c'est parfaitement légitime non seulement de se poser des questions, c'est même parfaitement légitime d'être éventuellement contre ou opposé. J'ai pas de souci avec ça. C'est l'argumentaire que je trouve un petit peu léger. Après, c'est la démocratie et évidemment, vous avez parfaitement le droit de ne pas trouver le projet UNESCO enthousiasmant ou qu'il ait des défauts. Mais sachez que je suis pas un béni oui-oui de l'UNESCO et que on fait ça en réfléchissant, comme on le fait d'ailleurs pour tous les sujets sur lesquels on est amené à travailler dans cette commune, et que quand on prend des décisions, c'est pas ni CMN qui décide, ni l'État à une période qu'on a connue où on nous imposait des projets. Là, ce sera un projet qui sera décidé et piloté par la commune et pas par aucune autre structure. Donc après, moi, j'accepte encore une fois la démocratie et si ce projet ne vous convient pas ou ne vous conviendra pas dans l'avenir, moi, j'ai aucun souci à ce que vous vous positionnez. C'est normal, c'est la démocratie. Ça ne me dérange pas du tout. Monsieur Minot.
Je reviens sur l'idée d'un référendum sur ce sujet spécifique, parce que l'élection municipale s'est faite en un tour. 69% des inscrits n'ont pas voté pour votre liste, et ça fait un référendum sur la question UNESCO parmi 36 autres.
Vous êtes définitif sur ce.
Oui, mais si on le met un peu en perspective, moi, ça me semble un peu court au niveau de la démocratie sur un projet d'une telle envergure. Vous confirmez.
Enfin, il me semble que vous ne semblez pas comprendre, mais à ce moment-là, il faudrait que ce référendum ne soit pas que sur la commune de Carnac. Hein.
Oui, non, mais ça pourrait être... Non, mais
c'est sur la moitié du Morbihan. Enfin,
oui, oui, mais c'est l'ensemble des habitants.
J'ai répondu à la question, oui. C'est non.
Voilà. Merci.
Je vous en prie.
Je vous rejoins tout à fait sur le fait que le projet UNESCO est quelque chose d'essentiel et d'important pour les 100 prochaines années, peut-être pour nous. Et ce que je crois veut dire Janine, mais surtout moi, c'est qu'on n'est pas du tout contre le projet. Il faut qu'on soit tous très vigilants, avec ce projet, parce que justement, il va nous impacter pour toujours, et parce qu'il peut être très clivant par rapport à la commune de Carnac et aux Carnacois.
Alors, je ne pense pas qu'il soit très clivant, mais Monsieur Guimard, nous sommes très très vigilants, encore une fois, sur tous les sujets sur lesquels on est amené à travailler sur cette commune. Oui, enfin... On l'a prouvé ? Je ne sais pas. Enfin bon, écoutez, en tout cas, on essaye d'être très vigilants. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? On peut passer au vote ? Donc je comprends que c'est un vote à l'unanimité, parce qu'il va falloir qu'on accélère, sinon Monsieur Harry va se prendre une prune de 135 euros en rentrant chez lui.
Super.
Non ? Je vous propose de passer rapidement sur le rapport numéro 17. Hein, c'est un rapport qu'on vote chaque année. Il s'agit du renouvellement de la convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement, hein, donc avec l'Agence nationale. Monsieur Marc Albert, qui aurait dû le présenter, n'étant pas là, je le soumets à votre vote. J'imagine qu'il n'y a pas de questions ni d'interrogations. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ce rapport ? Pas d'abstention non plus ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, l'exercice de droit de préemption sur les zones d'activité.
Alors, comme vous savez, depuis 2014, ACTA gère l'ensemble des zones d'activité sur son territoire. Par contre, les droits de préemption sont restés au niveau des mairies. Et donc, ACTA souhaite pouvoir avoir le droit de préemption par rapport aux cessions qu'il y a sur les zones d'activité. Ça nous paraît tout à fait logique, hein, puisque c'est eux qui les gèrent. Donc voilà, donc on vous soumet au vote de pouvoir donner autorisation de déléguer à Aurekibon Terre Atlantique l'exercice du droit de préemption urbain sur le périmètre du des parcs d'activité de Montauban-Bosséno, pour la commune de Carnac, bien sûr, en précisant rigoureusement le périmètre sur lequel il s'exerce par une cartographie adaptée, et de mettre fin à la délégation du maire en matière de droit de préemption urbain sur le périmètre des parcs d'activité existants ou en devenir sur les territoires de la commune.
On rogne mes pouvoirs dictatoriaux ?
Tout à fait. Ah bon, alors bien sûr, hein, les droits de préemption, en général, de ce que fera la communauté de communes ACTA, sera faite, bien sûr, en partenariat avec la commune, si ça doit arriver. Puisque, effectivement, ACTA a peu de chances de faire de la préemption sur une zone d'activité, même s'il gère les zones d'activité, c'est pas son territoire pour avoir besoin de bâtiments ou différentes choses, différents projets. Parce que je vous rappelle, pour une préemption, il faut avoir un projet.
Bon, ceci dit, c'est la logique des choses. Comme ACTA gère les zones d'activité, c'est normal qu'elle exerce la totalité des prérogatives qui y ont trait, et notamment le droit de préemption. Donc ça ne me dérange pas d'abandonner ce pouvoir. Est-ce qu'il y a des questions ?
Absolument.
On arrive à la fin des ventes des terrains à Montauban. Il doit en rester deux, je crois, ou trois peut-être.
Oui, tout à fait.
Et là, il y a des projets d'extension pour certaines des zones, ce qui est normal. Est-ce que maintenant que vous êtes vice-président largement élu, vous allez appuyer le fait de
souvent,
peut-être développer à nouveau ou de libérer des terrains sur cette zone pour de futurs acquéreurs et entreprises ?
Alors, ma vice-présidence, elle n'est pas au bon endroit, mais c'est pas grave, je vais quand même répondre. On a eu une réunion, effectivement, avec ACTA pour faire un point sur les terrains qui restaient sur la zone de Montauban. Donc, aujourd'hui, il reste un terrain libre à vendre. Il y a un projet, mais qui est un peu petit, donc on est en train de voir. Il y a deux autres terrains qui vont peut-être se libérer, puisque les projets n'avancent pas. Et sur le reste, l'ensemble des projets va être fait. Maintenant, et c'est pas à l'ordre du jour dans les deux prochaines années d'avoir une extension de la zone de Bosséno ou de Montauban, enfin plutôt de Bosséno, puisque sur la zone de Montauban, le seul projet d'extension qu'il y a, c'est le projet de la déchetterie. Qui est déjà un beau projet, hein, mais voilà. Et donc, c'est pas à l'ordre du jour pour les deux prochaines années. Mais effectivement, ça sera une question qui va être posée et qui va vite arriver. Ça nécessitera sans doute une modification et une révision complète du PLU pour pouvoir le faire. Donc ça sera plutôt à ces moments-là.
Révision à minima, et je ne sais même pas si ce sera possible compte tenu de certaines dispositions de la loi. Loi littorale notamment. Compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce droit de préemption ? Il n'y en a pas ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Abstention ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Oudois, on passe à la convention de fonctionnement de l'accueil de loisirs Plouarnel La Trinité.
Ben là, je vais vous parler de trois conventions, parce que vous avez l'habitude de les entendre. Les trois, en fait, concernent le fonctionnement du service enfance-jeunesse, qui sont proposés donc aux enfants de Carnac, La Trinité, Plouarnel. Et donc le bordereau numéro 19 porte sur le fonctionnement de l'accueil de loisirs. Le bordereau numéro 20 porte sur le fonctionnement des activités extrascolaires, donc notamment les ateliers découvertes, le prix des incorruptibles. Et puis le 21, en fait, c'est la mise à disposition du personnel communal pour les interventions sportives dans les écoles de la Trinité-sur-Mer.
Alors, s'il n'y a pas de questions et s'il n'y a pas de vote contre ou d'abstention, je vous propose de voter les trois rapports une seule fois, si vous en êtes d'accord. Donc, à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Oudois, le rapport 22.
Alors, Madame Le Golvan, il faisait référence tout à l'heure, donc c'est effectivement les 90 centimes que l'on propose de verser donc aux familles carnacoises dont les enfants sont scolarisés soit à l'école publique des Corrigans, soit à l'école privée Saint-Michel.
Alors, je voulais juste préciser qu'on va voter pour, évidemment, on n'est pas contre les 90 centimes, mais on aimerait que ce soit réévalué aussi régulièrement. Voilà.
Parfait. Donc, unanimité sur ce rapport également ?
Non.
Ah oui, c'est vrai, comme d'habitude, excuse-moi, Charles.
Je voudrais dire que la commission que Loïc préside et dont font partie Jean-Luc, Janine, Morgane, je crois, sur cet article-là, il n'y a pas qu'un seul point qui est débattu. Il y a eu les 90 centimes sur lesquels, effectivement, nous avons fait des remarques, mais il y a eu aussi le fait que la participation communale à l'école de Saint-Michel pouvait être un objet de débat. Et d'ailleurs, ça a été un objet de débat dans la commission elle-même. Donc je voudrais juste signaler qu'il y a quand même un débat et qui peut être sur la table à un moment, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de convention qui est mise sur la table. Mais enfin, c'est un sujet qui existe, puisqu'à la commission, il a été débattu en très courtoisement, mais enfin, les avis n'étaient pas tous les mêmes.
C'est parfait. Ce que tu dis est parfaitement exact. Et ça pourrait être l'objet, effectivement, d'un débat et d'un vote, hein, pourquoi pas. Mais oui, non, je sais que c'est une question qui parcourt la société française à Carnac et ailleurs. Hein, donc.
Et ceci pour expliquer que, pour la première fois, j'en suis extrêmement triste, il n'y aura pas l'unanimité sur un vote, puisque moi, je m'abstiendrai comme en 2019.
Oui, c'est pour ça que je me disais, je m'en souvenais, en fait. Ouais. Mais c'est tout à ton honneur et ça ne me pose aucun problème. J'espère que chaque conseiller municipal vote en conscience l'ensemble des rapports. Donc, si c'est ton choix, je le respecte. Donc, à l'unanimité, moins une voix, c'est ça? Enfin, une abstention, monsieur Bietri. Parfait. Je vous remercie. On passe rapidement au rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services publics de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Vous avez pris connaissance du rapport. D'ailleurs, j'en parlerai à Philippe Leray parce que je trouve dommage que le format ait changé et qu'il soit un petit peu allégé. Il y avait plein d'informations intéressantes sur à la fois les déchets et la gestion de l'eau. Et je trouve que là, c'est un petit peu plus succinct. Donc, à moins qu'on puisse consulter le rapport... D'accord, ok. Alors, je vous invite à aller sur le rapport complet, puisqu'il est consultable sur Internet, parce que là, il y a vraiment c'est une mine d'informations, ces deux rapports, que ce soit pour la qualité de l'eau, et notamment dans la présentation que vous avez là, vous n'avez pas les analyses physico-chimiques, c'est quand même des sujets très intéressants et qui intéressent nos concitoyens. Ceci dit, la qualité de l'eau s'améliore hein, sur notre territoire, et notamment les teneurs en nitrate qui baissent quand même fortement depuis une vingtaine d'années. Mais c'est des sujets et des rapports qui sont vraiment pleins d'informations très intéressantes, que ce soit pour les déchets. Je crois que l'intercommunalité a un plan, je crois pas d'ailleurs, je suis sûr, assez ambitieux sur les déchets. Vous savez que l'incinérateur va fermer et que Claire Masson, qui est la vice-présidente maire d'Auray en charge du sujet, voudrait vraiment faire du territoire d'Acta un territoire exemplaire en matière de collecte et surtout de tri sélectif notamment, parce qu'on a quand même un peu de retard. Donc c'est vraiment des sujets intéressants et je vous invite vraiment à aller consulter la totalité de ce rapport sur Internet parce que c'est des mines d'informations, que ce soit pour le tri, le tonnage et la façon dont les déchets sont gérés, c'est vraiment très 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 intéressant. Donc là c'est juste, on prend connaissance, hein, on vote pas sur ces rapports. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux rapports?
Oui, sur le rapport sur l'eau, on peut voir donc dans le rapport détaillé, comme vous l'avez mentionné sur le site internet, en 2018, on avait 30 000 mètres cubes qui ont été bypassés par la station. Et en 2019, c'est monté à 6 fois plus, 187 000 mètres cubes. Donc c'est plus de 10% du total des entrées dans la station. Mmh. Donc est-ce qu'on a une explication sur cette différence?
Alors tout à fait, on a d'ailleurs, enfin vous allez, on en a parlé. Hein, on parle de l'assainissement là ou on parle de l'assainissement. Alors oui, effectivement, on a eu hein, des épisodes extrêmement pluvieux et très concentrés l'année dernière. Et en fait, on sait que notre station d'épuration, pas seulement, hein, mais d'autres sur les territoires, ne sont pas suffisantes pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que c'est la vétusté des réseaux. Et c'est pour ça qu'Acta va investir plusieurs millions d'euros sur la commune et grands travaux dont on a peut-être déjà parlé ici vont se dérouler parce qu'il y a un problème de porosité entre les réseaux pluviaux et les réseaux d'assainissement, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau pluviale qui doit normalement aller à l'océan qui se retrouve arriver à la station d'épuration, ce qui n'est pas bien. et ce qui provoque effectivement des dépassements de capacité de cette station pendant les périodes extrêmement pluvieuses qui ont été très concentrées l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a eu un automne absolument terrible, d'où ces dépassements. Alors, le projet d'aménagement et d'agrandissement de la station est en cours. Hein, il a été lancé. On a eu une réunion de travail il y a quelques jours avec les services d'ACTA, plus la rénovation des réseaux d'assainissement de manière à ce qu'il n'y ait plus cette porosité entre l'un et l'autre et donc des eaux pluviales qui arrivent en trop grande quantité à la station. Et donc, voilà, le sujet est identifié. Cette année, on a de la chance. J'allais dire, c'est une des seules conséquences positives du SARS-CoV-2, c'est qu'il n'y a quasiment pas de grippe ni de norovirus pour l'instant. Je croise les doigts. Mais c'est un énorme problème et qui se reflète effectivement dans ces chiffres.
D'accord. Et il mentionne aussi qu'il y a une étude diagnostique qui a été réalisée sur le transfert des eaux usées de Plémel vers la station de Carnac. Donc, est-ce que c'est toujours d'actualité?
Alors, d'abord, l'infrastructure est déjà construite. Hein. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est d'ouvrir les robinets. Mais simplement, on le fera quand, effectivement, on sera certain que la station pourra accueillir la capacité qu'effectivement que représente Plémel. Donc, pour l'instant, c'est... L'infrastructure existe, les tuyaux ont été posés, mais ça ne se fera probablement que quand, justement, on aura résolu ces problèmes de porosité et également de capacité de la station.
Merci.
Monsieur Luneau, vous aviez une question ? Ou c'était la même ?
Non.
Ah, pardon. J'avais cru que vous saisissiez du micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces rapports ? Donc je vous propose de passer au rapport numéro 25 sur le musée de la préhistoire et la médiathèque, la charte des bénévoles. Catherine ?
Oui, bah ça va être très rapide. Donc en fait, c'est la médiathèque et le musée qui accueillent des bénévoles, donc qui aident au fonctionnement bien évidemment de ces services. Donc à peu près une dizaine de personnes pour la médiathèque et une seule personne au musée. Donc j'ai un appel à lancer justement. Céline m'a demandé s'il y avait des amateurs. Pour pouvoir faire du bénévolat au musée. Ils en ont besoin aussi. Et donc, c'est simplement de formaliser les relations entre les agents de ces deux structures et les bénévoles, et donc de définir la place et le rôle de chacun, puisque, voilà, d'adopter donc cette charte de bénévolat qui, jusqu'à présent, visiblement, n'existait pas.
Pas de questions ?
Bien, les bénévoles. Yann, t'es bénévole ?
Bon, bah si. Tu sais très bien que tu as un rapport avec le musée concernant les restes. Tu nous as fait aussi, si tu nous as fait beaucoup rire, donc voilà. Non, c'est parce que c'est. Non, mais c'est. C'est Yann qui l'avait dit lors de la visite
on
du musée.
On a le droit à la blague ou pas ? C'est quoi, Yann ? Si la presse s'engage à ne pas relater, tu peux peut-être nous...
Donc, je vous demanderais juste d'être inaudible à ce moment-là.
Voilà.
OK. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Un personnel communal, donc modification du tableau des emplois, dont j'ai cru comprendre qu'il s'agissait, Philippe, de quelques promotions et également de... Bah, tu vas nous expliquer ça, parce que c'est tellement compliqué. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ?
Moi, je suis un peu... Oui.
Madame Le Golvan.
Oui. Moi, je suis un peu perdue dans vos tableaux, monsieur. Je dois avouer que là, j'ai été obligée de reprendre ligne par ligne. Et quand vous dites, en effet, de préparer ou de les départs en retraite, j'arrive pas à le comprendre. Donc, si vous pouviez nous expliquer, parce qu'on voit qu'il y a des modifications, mais à chaque fois, il faut reprendre l'autre tableau et revérifier. Ça nous dit...
Théoriquement, vous devez avoir un 0,5 en plus en équivalent temps plein, mais moi...
Oui, mais ça, à la limite, c'est bien. Mais avant, quand on... Vous avez juste modifié votre tableau, mais il n'y a pas de départ en retraite encore. Vous préparez... Donc...
Comme vous avez des remplacements, quand vous avez un moins 1 quelque part, vous allez avoir un plus 1 ailleurs.
Oui.
Comme c'est pas nécessairement sur les mêmes postes, le total fait qu'il bouge que très très peu, 0,5.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc, si je peux vous donner un exemple, pour garder la zone du patrimoine, vous allez avoir un plus 1 en bas, chargé d'accueil.
Oui.
Voilà, qui n'existait pas avant. Mais d'accord. De l'autre côté, on a deux départs en fait au service entretien.
Donc, c'est
Donc, les variations font qu'à un moment, vous n'avez que 0,5 d'emploi permanent qui bouge.
Et est-ce que ça serait pas plus simple,
ou en dehors ou en plus de ce tableau-là, qu'on ait bah justement la liste de ceux qui partent en retraite, ceux qui arrivent ou autre, quoi. Ce serait plus simple.
Non, strictement interdit. Non, mais attendez, la seule, enfin, moi je comprends la préoccupation de Mme Le Golvan et de la minorité, c'est-à-dire de vérifier qu'il n'y ait pas des dérives ou des. La ligne qui est la plus importante, c'est la ligne TP, c'est-à-dire que c'est la ligne équivalente en plein. Donc si vraiment, effectivement, elle bouge, là, effectivement, on peut se poser des questions. Là, c'est juste mais si Mme Le Golvan veut passer une heure avec Philippe pour lui expliquer, j'ai pas de souci là-dessus. Hein.
Tout ça, puis c'est pas forcément de vérifier les dérives. On voit bien en regardant en bas du tableau, de toute façon, il y a le chiffre et puis. Qui est là. Par contre, c'est vrai que c'est bien de savoir, quand on nous dit c'est pour préparer les départs en retraite, si on lui disait, bah, par exemple, agent territorial ou agent d'entretien, il y en a deux départs en retraite, ça évite de rechercher, d'être en train de voir où se passent les moins et les plus. Quoi. C'était ça mon intervention. Oui, mais Monsieur Charpentier, il faut garder, il faut garder les anciens tableaux, reprendre les nouveaux, pointer. Enfin, on n'est que conseillers municipaux, et voilà, c'est juste de nous aider à éviter. Vous comprenez? Vous avez raison, j'ai fait les moins 1 et les plus 1, comme sûrement tout le monde ici, mais il a fallu que je prenne l'ancien tableau, et ça. Je vois pas pourquoi on n'a pas voté.
Bon, c'est le même problème que tout à l'heure dans les comptes. Vous voulez avoir le détail. À un moment, quand vous avez un changement de chapitre, ou là, un changement de chapitre pour des employés communaux, enfin, le but, c'est de savoir, heureusement que ça évolue. Heureusement que systématiquement, les gens qui partent en retraite ne sont pas remplacés au même poste. C'est une logique, c'est une évolution de la collectivité. Après, derrière, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce qu'on tient effectivement les engagements, ou est-ce qu'il y a une dérive sur le nombre de salariés en équivalent temps plein? Après, savoir à quel endroit ça se présente, pour qui, pourquoi, j'ai du mal à vous suivre, là. Ça, c'est comme dans les comptes tout à l'heure, quoi. OK, vous allez avoir exactement la virgule pour savoir, vous allez en faire quoi.
Mais monsieur Lejean, vous êtes en train de me dire que je prends pas de hauteur et que vous en prenez. Mais quand vous avez la réponse aux questions, c'est quand même plus facile de prendre de la hauteur. C'est tout, point barre.
Le problème, c'est que c'est quoi la question?
C'était de noter justement, c'est-à-dire que si deux agents d'entretien en retraite, donc voilà, on avait l'explicatif, et plus, je sais pas moi, au musée, à la médiathèque, un emploi, enfin je veux dire, et après nous on voit où il y a des départs et où il y a des rentrées. Point, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas.
Quand il y a une personne à un endroit, à un poste, soit en recrutement ou en départ, automatiquement ça devient nominatif. C'est ce que vous expliquez.
Ok, je vous propose de. Il est moins tôt. On est en train de manger l'apéritif de Pascal. Est-ce qu'il y a des votes contre cette modification des tableaux? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. On passe au dernier point de ce conseil municipal. Vous le savez tous, Monsieur Christian Bonnet donc est décédé au mois de juin dernier. Il a été un très grand maire pour la commune. Je pense que. Tout le monde, même ses opposants de l'époque, en conviennent aujourd'hui. Hein. Ça a été un maire assez visionnaire. Il a fait des choses assez modernes pour son époque. C'était quelqu'un qui avait un autre style. C'était une autre époque. Et la commune souhaite évidemment lui rendre hommage. Alors on s'est posé la question, effectivement. Il ne le souhaitait pas de son vivant. Hein. Il avait toujours dit qu'il refuserait. Et donc, c'est pour ça qu'aussi que nous avons consulté sa famille avant de vous faire cette proposition. La famille souhaitait un endroit à la fois symbolique qui l'incarnait. Et cette place qu'on vous propose donc de baptiser place Christian Bonnet, qui consiste en fait à scinder la place de la Chapelle en deux parties, une place Christian Bonnet qui sera la place devant la mairie, eh bien c'est un lieu évidemment emblématique et qui rappelle le grand-maire qu'a été Christian Bonnet. Alors après, les goûts et les couleurs, l'architecture de la mairie, on peut en discuter, mais cette mairie, c'est lui. Et j'aime à penser que toutes les communications de la commune, toute la correspondance épistolaire sera avec le nom de Christian Bonnet qui figurera dans l'adresse de la mairie. Et je trouve que c'est un bel hommage. Donc la famille a été consultée et donc elle a donné son accord. Je pense que c'était le minimum qu'on puisse faire pour rendre hommage à ce grand-mère. Je pense qu'Olivier, tu pourras peut-être en dire un mot. Encore une fois, et je tiens à ce que la commune, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, lui rend hommage, hein, peut-être au mois de juin prochain, si tout le monde est soit vacciné, si la pandémie s'est terminée. Je pense qu'on n'a pas eu l'occasion. Voilà, il est mort pendant le confinement, ce qui est quand même dommage, parce que beaucoup de Carnacois m'approchent pour regretter le fait de ne pas avoir pu lui rendre un dernier hommage, soit à Saint-Cornélie, soit au cimetière, soit dans le cadre d'un événement politique, pas seulement politique, enfin politique au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire gestion de la cité. Et je pense vraiment qu'au mois de juin prochain, il faudra vraiment qu'on essaye d'organiser quelque chose. Mais voilà, moi je l'ai pas connu, je lui ai parlé deux fois dans ma vie, mais Olivier qui est là a beaucoup travaillé avec lui.
Merci, monsieur le maire, parce qu'effectivement, c'est une époque où on s'appelait mon cher collègue et monsieur le maire en conseil municipal. Oui, d'abord, je voudrais vraiment, du fond du cœur, vous remercier parce que vous êtes à l'origine de cette décision et j'y suis extrêmement sensible. Évidemment, chacun sait que Christian Bonnet, plus que quiconque, a contribué à la fois au développement et à la préservation de Carnac, et à ce que la station et la commune soient ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, vrai ce qu'a dit Olivier Lepic, c'est-à-dire moi ça m'est arrivé, bon j'ai côtoyé Christian Bonnet pendant plus de 35 ans jusqu'à ces dernières années, et c'était tout à fait juste ce que vous disiez, c'est-à-dire que je l'ai taquiné plusieurs reprises sur ce sujet-là, et à chaque fois, il prenait son ton habituel, non, mais qu'est-ce que vous racontez, taisez-vous donc. Pas d'histoire comme ça, je veux pas de rue, choses comme ça. Bon. Mais c'était, pour le coup, j'en suis absolument convaincu, c'était plutôt de façade. Et je suis sûr qu'il aura été très touché qu'au travers du conseil municipal, la commune reconnaisse ce qu'il a fait. Et il aurait particulièrement apprécié que ce soit la place de la mairie qui soit choisie. Ça, c'est comme ça a été, vous l'avez dit très justement, c'est ce qui symbolisait vraiment son action, sa contribution au service de la commune. Donc je pense, je ne veux pas parler à sa place, Dieu m'en garde, mais je suis absolument certain qu'il l'aurait apprécié. Donc merci, et évidemment, vous aurez ma voix sur ce bordereau.
Katia aussi, tu as connu M. Bonnet en action?
J'ai beaucoup d'émotion vis-à-vis de M. Bonnet, parce que c'était quelqu'un de très humble, de simple. C'est sûr, quand je pense que Olivier, tu vas penser la même chose que moi, quand on rentrait dans son bureau, qu'il était dans un état, ce qui tapait du poing sur la table, c'était pas quelqu'un de demi-mesure, c'était quelqu'un de très droit, très franc et très humain. Et moi, à 25 ans, on avait 50 ans d'écart. Et j'ai appris énormément avec lui, sur l'être humain, sur la façon de penser. Mais moi, M. Bonnet, c'est un grand homme. Moi, comme je le dis aujourd'hui, c'est un grand homme dans ses valeurs, dans son humilité, dans son contact avec les gens, dans ses histoires, son vécu, parce qu'il adorait raconter aussi ce qu'il vivait par rapport aux gens de droite, aux gens de gauche. Olivier, t'en as des souvenirs des repas qu'il faisait et voilà. Mais ça restera pour moi un grand homme dans ma vie. Et surtout pour son humilité. Quelqu'un, comme je dis que c'était le paysan de la commune, que c'était un avocat, qu'on était tous au même niveau. Et c'est, pour moi, c'est ça qui caractérisait M. Bonnet. C'est-à-dire que le paysan qui avait un problème de champ, il allait se plier en quatre. L'avocat, il allait se plier en quatre. On était des êtres humains avant tout. Il n'y avait pas de fossé dans la société. Et pour ça, c'était un grand homme. Et je pense que Nadine, tu peux prendre la parole aussi, puisque tu as connu M. Bonnet. Mais c'était un grand homme. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Comme je vous dis, on était des êtres humains, qu'on était le simple paysan ou le plus grand avocat de Paris. On était des êtres humains. Voilà.
Je vois que quelqu'un veut dire quelque chose. sur, enfin voilà, moi je trouve que ça a été un maire visionnaire. Il a, c'est aussi un maire qui a été très décrié pendant ses mandats. Hein. Ah, bah, Nadine, tu voulais dire quelque chose?
Oui, en fait, oui.
T'as changé d'avis?
Oui, après je pense que l'émotion m'envahit aussi. Donc, Monsieur Bonnet, moi je l'ai rencontré la première fois quand on est venu à Carnac pour acheter le cinéma. Et l'anecdote est très, j'étais avec mon papa. C'est émouvant à différents titres, mais et ce monsieur, ce petit monsieur qui était hyper impressionnant, je me suis dit, waouh, alors là, si on sort vivant du bureau, là, là, et en fait, naturellement, et je te rejoins, Katia, enfin, son côté humain était juste exceptionnel, et si le contact se faisait, il s'est toujours mis, enfin, je sais qu'il il s'est toujours mis en quatre pour faire en sorte que le cinéma aille jusqu'à ce qui jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à même dans plusieurs années encore, et du coup, enfin j'ai déjà un immense respect pour ce monsieur. Voilà.
Voilà, je crois qu'après ça, il n'y a plus grand chose à dire. Je retiendrai aussi l'homme de lettres. Moi, quelque chose qui m'a frappé, c'était sa culture. Je me souviens, dans une campagne électorale, de voir monter sur scène et maniant l'imparfait du subjonctif, des choses qui ne se font plus, quoi, malheureusement, mais quelqu'un de très droit, aussi très décrié, parce que je regardais un petit peu son... Quelqu'un m'a apporté très récemment le journal de campagne d'une élection auquel il s'était présenté, les législatives. C'était sportif, hein, on dit les élections aujourd'hui, mais à l'époque, c'était aussi très sportif. Et c'était quelqu'un qui était vraiment à la fois... qui avait une autorité morale, intellectuelle, une éthique, qui était vraiment, enfin, c'est quelqu'un qui n'a jamais été mis en cause dans quoi que ce soit. Dans une carrière politique comme la sienne, c'est quand même assez rare. Il a été ministre de l'Intérieur, qui est quand même un poste extrêmement exposé. On retient l'intervention sur Messrine, porte de la Chapelle. Hein. C'est lui qui l'a piloté en tant que ministre de l'Intérieur. Mais voilà, c'est des moments quand même. En dehors de sa vie carnacoise, ça a été un homme politique important. Agriculture, ouais, il a été ministre de l'agriculture aussi.
Ah, oui, l'impôt sécheresse.
Et d'ailleurs, il y a pas une anecdote sur la bouteille Perrier qu'il a fait abîmer dans les années 71, justement, c'est lui qui était ministre de l'agriculture, qui avait soi-disant une connotation. Alors, il faudrait que je recherche.
71.
Dans les années 70,
il n'était pas ministre de l'agriculture.
74. Il a été secrétaire d'État au logement en 72 et miséricain en 74. Oui. C'est possible. Ah, c'est une publicité. Mais ça, il avait peut-être fait une chronique dans La Liberté du Morbihan, ce que disait le maire.
Bon, c'était aussi, c'était une autre époque. C'est vrai que.
C'était une autre époque, mais. C'est vrai que, comme toute, je ne voudrais pas prolonger le débat parce qu'il est tard et on a des festivités, mais simplement, comme tout homme politique, comme tout responsable politique, comme tout élu, ses décisions pouvaient porter à débat et à contradiction. Pour autant, il faut quand même souligner qu'il a été élu brillamment 6 fois maire de Carnac, et qu'il a gagné toutes les élections auxquelles il s'est présenté, quel que soit le mandat, député, sénateur, conseiller général, etc. Bon, donc, voilà, ça veut dire que, comme on essaye de le faire, il faut aussi avancer, et il avait les projets, et il les défendait, et il avait ses convictions. Et en effet, il était extrêmement d'une intégrité absolue, comme on le disait en plaisantant, on pouvait à peine lui payer un café, parce qu'il était toujours très, très soucieux de ne donner la prise à aucun soupçon de quelque complaisance que ce soit vis-à-vis de quiconque. Et c'était le prix de son indépendance. Et c'est vrai qu'en 45 ans de carrière politique, dans des responsabilités qui ont été soulignées, jamais on n'a pu lui mettre sur le dos quoi que ce soit. Donc c'est un exemple et c'est une raison supplémentaire pour laquelle je pense qu'il mérite pleinement la place Christian Bonnet. Merci.
Et je dois dire que ces records ne seront probablement jamais battus, mais pour le point que tu évoques, c'est clairement un exemple absolu, et je dirais même un maître étalon pour moi, l'éthique, la morale et le fait d'être J'ai beaucoup d'admiration pour lui pour ça aussi, parce que je lisais les débats en conseil, c'est vrai que c'était aussi très animé, hein. il y avait une vraie opposition, il était aussi très très énergique, très colérique aussi, mais voilà, ce qui ressort de tout ça, c'est quand même un homme avec des valeurs, un homme profondément humain, avec des convictions aussi, et c'est quelqu'un qui quand il était convaincu de quelque chose, hein, il y a eu, je me souviens, la mairie, le casino. Enfin, je sais que il n'était pas tout à fait convaincu pour le casino. Toi, pour le coup, tu as porté un peu le sujet, mais il savait aussi écouter. Donc, c'était aussi quelque chose qu'on n'attend pas forcément d'un homme de cette stature, quoi.
Profondément, Cathy l'a très bien et Nadine l'ont très bien rappelé. Il aimait les gens. Il aimait les Carnacois, évidemment, mais il aimait les gens. Et il disait toujours que c'était le fondement de l'action politique. On ne peut pas faire de l'action politique sans aimer les gens. Et je pense qu'il en était vraiment un bon exemple.
Son petit café à la marine tous les matins. Enfin, il était au marine nu. Ouais.
Et on aura l'occasion d'en parler.
Tout à fait. Voilà, je pense que vous serez tous d'accord aussi pour dire qu'au mois de... Enfin, quand la situation sanitaire le permettra, parce qu'il y a beaucoup de... Valéry Giscard d'Estaing qui était son président de la République est malheureusement parti, mais je suis sûr qu'il serait venu s'il avait été encore vivant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rendre un hommage, je dirais, voilà, plus personnel, à la fois politique, et je pense que cet hommage, il faudra qu'on le tienne. On avait évoqué la chapelle de la Madeleine, hein, qui était un lieu emblématique aussi pour lui et sa famille, donc peut-être au mois de juin, si possible, faire quelque chose, un événement au cours duquel les Carnacois pourront venir lui rendre l'hommage qu'il n'a pas eu malheureusement en décédant pendant le... Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'on a pensé
100 ans.
À cette date.
Ça sera 100 ans le 14 juin prochain. Oui.
Monsieur Luneau,
sur la plaque, vous comptez mettre maire de Carnac, évidemment, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Agriculture, c'est
intéressant. Non, ce sera maire de Carnac.
Juste maire de Carnac.
Maire de Carnac avec sa date de naissance.
D'accord.
Et sa date de mort.
Parce qu'avec le temps, les générations suivantes seront... pas forcément, ou auront pas la curiosité toujours de...
Oh, je pense
et c'est comme des... Le fait qu'il était ministre de l'Agriculture, c'est...
On verra, mais on peut pas, ouais, tout mettre. Bah, malheureusement, fait... il a un CV long, bah, comme, oui, le bras, hein, sénateur, député, secrétaire d'État, ministre, maire. Mais je pense qu'ici, nous l'honorons non pas pour, ouais, son... non pas pour ce, pour ses, pour avoir participé à plusieurs gouvernements, mais on l'honore parce qu'il a été maire de Carnac, ouais. Donc je proposerai, le connaissant, et je pense qu'il était très attaché à ça, je pense qu'il aurait aimé qu'on mette maire de Carnac et ses dates éventuellement de...
Enfin, de mandat. Ouais.
Mandat.
Merci.
Ok, donc est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition ou des abstentions? Tout le monde est d'accord. Donc je vais vous demander de rester assis, ou pour ceux qui veulent profiter de la coupette que nous offre lui aussi totalement éthique, c'est lui qui a payé les bouteilles. Voilà, une petite coupe de champagne afin d'éviter que, voilà, ceux qui souhaitent rester, pour éviter les déplacements.